Bonsoir à tous et merci d'être là. Déjà merci à la librairie et Lionel au Vendémot de nous accueillir. Bruno, l'auteur de 12 juillet et moi-même et mon épouse qui représentons les éditions Celto, l'éditeur de 12 juillet. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir ici et à vous d'être venus pour échanger un petit peu autour du roman et de son écriture, de l'auteur, du sujet, de plein de choses. Voilà, donc bah, Bruno, je vais te laisser te présenter, je pense que tout le monde te connaît, mais en tout cas, parler un petit peu de ton roman.
Ça va être vite fait, oui. Je suppose que tout le monde me connaît ici, parce que je pense qu'on est quasiment tout le monde. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais connaître beaucoup. Je travaille au service communication de la ville et dans le journal Énergie. Donc, certains ont déjà dû voir mon nom dans le journal. Je m'occupe aussi du site de la ville. Bon, ça, c'est pas la partie pro. Et depuis une quinzaine d'années à peu près, je me suis lancé à dire sérieusement dans l'écriture de fiction. 12 juillet, ben, la particularité, c'est que c'est à la fois mon premier roman et mon dernier, parce que c'est le premier que j'ai écrit en 2003 pour sa première version, et c'est le dernier que j'ai fini en 2016 quand Julien
on s'est rencontré
et qu'on a décidé de travailler ensemble et où je lui ai dit que j'allais le reprendre pour l'étoffer, pour en faire quelque chose d'un peu différent et pour le rendre plus long, puisque le premier faisait une centaine de pages, donc c'était plus une grosse nouvelle qu'un roman, et puis parce que c'était le premier que j'écrivais et que il y avait quand même des choses à reprendre et à retravailler dessus. Entre temps, j'en ai écrit 4 autres. Certains qui étaient là en 2013, il y a 4 ans pour 09. La différence, c'est que 09 était en auto-édition puisque j'avais pas trouvé d'éditeur pour celui-là. Donc, c'est le premier qui a édité. C'est le premier qui est vraiment édité. C'est vrai que bon, ça m'a permis aussi de voir la différence qu'il y a entre passer par l'auto-édition, ce que Lionel m'avait d'ailleurs fortement déconseillé. Et ça se comprend aussi parce que le libraire n'a pas du tout l'auto-édition, c'est normal. Et il avait raison, parce qu'en fait, le problème de l'auto-édition, c'est que tout le travail de promotion du livre n'est pas fait, ou alors est fait par l'auteur, mais bon, c'est pas le boulot de l'auteur non plus, il n'a pas ni le temps, ni les compétences, ni le réseau pour faire ça, et ça aboutit à rien. Et puis, il manque aussi le regard et le travail qu'il peut y avoir avec un éditeur, et qui est quand même une partie importante de ce qu'on fait. Même si c'est pas le premier à être finalisé et commercialisé, on dira pour moi c'est le premier à être édité. Donc c'est un roman que j'ai écrit donc, pour sa première version en 2003, en prenant comme trame, pour ceux qui l'ont lu, donc la finale de la Coupe du Monde en 98, ces éléments de décor-là. Alors, pour les spécialistes, avant qu'il y en ait qui me fassent la remarque, effectivement, c'est pas les maillots de l'année 98, mais bon, c'est ce que j'avais en stock.
Tu l'avais pas dit.
Celui-là, il est de 70, et celui-là, il est 82. Bon, c'était des bonnes années aussi, quand même.
Deux équipes mythiques, pour l'un et pour l'autre.
Même certainement meilleures que celles de 98, d'ailleurs. Donc, l'idée, c'était de partir d'une trame qui est celle de la finale de la Coupe du Monde, mais ça occupe qu'une part minime de l'histoire. Hein. Enfin, je ne me suis pas amusé à mesurer la partie récit du match, qui n'est pas une fiction, en fait, hein, dans ce cas-là, et la partie fiction, mais le match est représenté, c'est comme un quart du total ou une
oui, chère, à peu près un quart du...
Ouais, pas plus. Hein.
Non, pas plus. Donc c'est vraiment un fil conducteur qui sert de repères dans le temps, parce que il suit exactement minute par minute, toutes les 5 minutes, le déroulement du match.
Voilà, le découpage des chapitres est minuté. Hein. C'est plus un roman en fait sur le temps que sur le foot. En fait. L'idée, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais choisi comme exergue le texte, la citation d'Étienne Klein en exergue, sur la perception qu'on peut avoir du temps différente en fonction de ce qu'on vit, quoi. C'est-à-dire, c'est une perception totalement subjective. En gros, un moment qui est important pour nous, on perd la notion du temps. La notion du temps n'existe plus sur ce moment-là, c'est comme s'il se dilatait à l'infini, et c'est peut-être pour ça qu'on s'en souvient aussi, ce qui marque les souvenirs les plus forts, c'est ces moments qui n'ont pas été forcément longs dans la vie, ça peut être quelques secondes ou quelques minutes, hein, mais qui s'impriment et qui se drapent. Alors qu'après, à côté de ça, on peut avoir vécu des jours, des mois et des années sans aucun intérêt et qui laisseront aucune trace. Donc c'était plus le thème du roman, c'est ça, c'est le temps. Et donc le fait de partir sur un moment qui est un marqueur important pour tous ceux qui l'ont vécu. Et donc l'idée c'était un peu en gros, et vous, quel souvenir vous avez de ce moment-là, quoi. C'était ça un peu l'idée. Donc à la limite, on pourrait très bien remplacer la finale de la Coupe du Monde par n'importe quoi d'autre, qui soit suffisamment important quand même dans la mémoire collective, mais potentiellement n'importe quoi d'autre. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la trace que ça a laissée, et la façon dont les gens réagissent à ce moment-là. La perception qu'ils ont de ce temps qui se contracte ou qui se dilate, ce qui a été très bien perçu d'ailleurs par l'article de Marseillais, hein, qui se présente, qui a parfaitement vu ça et qui a bien senti le truc, et c'est ça qui est important. D'ailleurs, la partie que j'ai, quand j'ai repris le roman l'été dernier, puisque je l'ai repris donc entre juin au moment où...
au moment où on s'est rencontrés, on s'est lancé dans l'aventure.
Voilà,
et,
donc en fait, quand,
octobre, à peu près,
voilà, j'ai proposé, alors pour l'anecdote, j'ai proposé le roman à Julien un peu par hasard, parce que j'étais plus du tout à ce moment-là, comme il était sorti en 2003, j'étais passé à autre chose, j'avais écrit quatre autres manuscrits, et c'était pas celui-là qui, pour moi, c'était... qui était celui sur lequel j'ai travaillé. Il y a un an, j'étais sur un projet totalement différent, qui est le dictionnaire de l'équipe de France, sur lequel je suis en train de travailler, qui n'est pas du tout de la fiction, mais du documentaire. Quoi. Et donc, on travaillait à trois là-dessus, on cherchait un éditeur, alors que le projet était qu'à ses débuts. Donc j'ai cherché les éditeurs de sport pour les contacter, et en cherchant les éditeurs de sport, je suis tombé sur Salto, puisque enfin, Julien va en parler... Après, mais la particularité de Salto, c'est d'avoir choisi un créneau sport et littérature. Et c'est là où je me suis dit, c'est pile le créneau de 12 juillet, donc pendant que j'y suis, allons-y, quoi, de toute façon. Depuis le temps, il n'y avait plus rien à perdre, plus il avait quand même été proposé à une quinzaine d'éditeurs, et il n'avait pas été pris, quoi. J'ai conservé précieusement les lettres de refus, on ne sait jamais. À l'occasion, ça peut... On peut s'amuser d'ailleurs à les comparer pour... faire le jeu de cette erreur, parce qu'elles se ressemblent toutes, hein, c'est des lettres type.
On les ressortira le jour où tu auras le concours.
Je me les garde précieusement, et ça peut toujours servir. Donc voilà, j'ai présenté l'idée, enfin avant même de présenter le manuscrit, j'ai présenté l'idée à Julien, qui m'a répondu rapidement en disant que, a priori, il était intéressé, hein, puisque tu m'avais dit, je crois que tu cherchais des manuscrits sur le foot, parce que tu n'en avais pas encore.
Oui, tout à fait. À ce moment-là, bon, déjà, je resitue aussi la genèse des éditions Salto. Donc, ouais. La maison existe depuis 2015, depuis mai 2015. Donc, ça va faire deux ans, là, dans un mois, ça va faire deux ans. Et comme disait Bruno, on s'est spécialisé sur le créneau de la littérature sportive. C'est-à-dire des publications de romans, de nouvelles, de récits, de biographies, à sensibilité littéraire, mais évoluant dans un univers sportif. Donc, ça peut être le foot, comme pour le juillet, ça peut être l'aviron, ça peut être le basket, ça peut être le rugby. Le tennis, ça, peu importe, à partir du moment où on touche à la littérature. Donc il y avait déjà beaucoup de romans qui étaient sortis, de livres qui existaient sur cette idée-là. Mais par contre, il n'y a aucune maison d'édition en France qui était spécialisée sur ce créneau. Et on parle beaucoup dans le domaine de l'édition de niche éditoriale, donc celle-ci en est une. Et on sait, donc avec mon épouse, on s'est engouffré dans cette... saisi cette brèche en disant il y a quelque chose à faire, et en plus c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. donc voilà, la maison existe depuis deux ans, et puis peu à peu elle fait son petit chemin, et puis il y a à peu près un an, Bruno m'a contacté en se promenant sur internet, et du coup voilà cette maison en disant j'ai ça, est-ce que ça peut vous intéresser. Donc oui, effectivement, le sujet était intéressant. On n'avait rien, on n'avait pas encore de roman, étonnamment, pas encore de roman sur le qui évolue dans l'univers du foot. Puis moi, à titre très personnel je rêvais d'un roman écrit autour de la finale de 98, autour du 12 juillet. Donc, c'était vraiment l'occasion parfaite. On s'est rencontrés, en juin. Enfin, on m'a contacté par mail. Tu es venu nous voir en juin. Et puis, à partir de là, l'aventure commune a commencé avec le travail.
Voilà, c'est là que moi, je lui ai soumis le manuscrit de 2003, le premier, en lui disant que d'après moi, il était quand même largement améliorable. Et voilà. Puis, je voulais aussi avoir un retour là-dessus. Et on s'est mis d'accord sur le fait que j'avais jusqu'à la fin de l'été à peu près, pour le retravailler et puis lui donner une version plus aboutie et plus approfondie. Donc voilà, j'ai eu 2 mois pour le reprendre et en faire une version 2 qui plus grande chose à voir, je dirais, avec la lune. L'idée est la même. Et le
fil conducteur est toujours présent, la trame est toujours présente.
L'amplitude est la même aussi, sauf qu'on a retravaillé l'épilogue. Mais après, il y a eu quand même un travail d'approfondissement des personnages, des situations, tout ce que, en gros, j'ai appris à faire avec les manuscrits suivants, et que je ne maîtrisais pas forcément en 2003. Et en 2003, je crois que j'étais encore beaucoup trop calé sur une écriture journalistique pour laquelle j'avais été formé. Et la qualité de l'écriture journalistique, c'est de faire court, et de faire neutre, c'est-à-dire de donner le moins possible son avis, et de s'effacer derrière le sujet, quoi. Enfin, de mettre le sujet en avant et de ne pas se mettre en avant soi-même. Et là, c'est un peu le contraire qu'il faut faire. Donc, il a fallu du temps pour se dépouiller de ça et savoir rentrer dans une scène, prendre le temps de la décrire, accélérer à certains moments et ralentir à d'autres. Enfin, c'est compliqué quand même, hein. Ça a l'air relativement facile.
Mais tu dis 3 fois le jeu.
Oui, en plus. Oui.
Enfin, ça, c'est encore une difficulté.
Oui, avec plusieurs narrateurs, voilà. Voilà. En plus, ouais. Voilà, donc il a fallu que je me débarrasse un petit peu de ces habitudes d'écriture professionnelle, je dirais, et rentrer beaucoup plus dans les personnages, dans leur histoire. Donc écrire, ça nécessite d'écrire une mini-biographie de chaque personnage, dont 80 ou 90% ne sera pas utilisé dans le roman, mais qui existe. Et c'est ça aussi qui rend, je pense, les personnages plus réalistes, plus crédibles, plus vivants, même si tout n'est pas mis dans le roman, quoi. Et voilà, c'est tout ce travail préalable qui n'avait pas été fait. Et puis parce que entre 2003 et 2016, il s'est passé 13 ans et que je ne suis pas la même personne aussi. Comme quand on a des enfants et qu'on élève les enfants, on n'élève pas le premier comme le deuxième ou le troisième. Et ben les livres, c'est un peu pareil. Quoi. Enfin, ça n'a pas les mêmes conséquences, heureusement, je dirais. Mais.
Quoique.
Non, mais enfin, on a plus le droit à l'erreur avec les livres. Voilà, c'est le même. On va le payer tout le premier. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Puis donc fin août, j'ai remis le manuscrit à Julien. Il y a eu toute une phase de relecture, de correction. C'est justement ce qui avait manqué, je pense, sur 09 et qui est vachement importante. Hein, qui est un travail quand même assez long, méticuleux.
Ce qui est très bien avec ton écriture et avec ton travail d'auteur, par rapport à d'autres, comme tu dis, tu as une écriture journalistique, enfin, tu as une formation de journalisme, mais qui donne une écriture qui est assez propre. Mm-hmm. Quand je dis propre, il y a des détails qui sont ajoutés, il peut y avoir une virgule, mais je veux dire, globalement, en termes d'écriture, c'est fluide. J'ai eu des manuscrits, on retravaille des manuscrits qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus laborieux, il n'y a pas cette fluidité. Toi, tu es naturel, enfin, pas naturellement, mais en tout cas, le premier jet et le second, l'espèce de fluidité qui a facilité la relecture et qui permettait de plus s'attarder sur sur des détails, sur une incohérence, sur là peut-être qu'il manque quelque chose, mais voilà, il n'y a pas eu un travail de réécriture pour en parler, c'était plus de la vérification des sources choix, et de l'information.
Oui, des choix aussi à faire.
Et des choix à faire,
est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on enlève voilà. Mais oui, mais c'était quand même un travail important, donc là, moi, du coup, c'était la première fois que je faisais ce type de travail et c'est important quoi. Ça prend du temps puisque ça a pris quand même plusieurs semaines, en fait, je sais pas combien de temps ça a pris. Il y a eu plusieurs versions.
Il y a eu plusieurs allers-retours.
Voilà, une fois que le livre est maquetté, il y a encore des relectures sur la maquette définitive, puisqu'évidemment c'est là où on peut voir effectivement les tournes, les trucs comme ça.
Voilà, exactement. Voilà. Mm-hmm.
Donc c'est un travail qui est long mais qui est intéressant quoi. Voilà.
Et puis voilà, après, à la fin de ce travail de relecture, correction, place à la mise en page définitive et à l'impression. Et puis, il y a tout le travail de promotion, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Oui, c'est pas le moindre, oui.
C'est pas le moindre.
C'est sûr que c'est aussi un gros boulot.
On peut revenir un petit peu sur ton livre, enfin sur le livre en lui-même. Bon, pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui l'ont pas lu, t'as choisi donc de prendre trois personnages. Mm-hmm. Comment tu les as choisis? Pourquoi trois? J'ai vu dans l'article ce matin, hier, trois personnages comme le nombre de buts. Est-ce que c'était
Non, pas du tout.
Non.
Ça fait partie du genre de choses. Voilà. Parce que je voulais en fait un couple et une autre personne, donc c'était plus ça qui était le... Puisque dès le départ, ce que je voulais, c'était... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas lu le livre, pour révéler la fin. Donc, il me fallait trois personnes, donc deux qui sont en couple et un troisième qui est ami du couple et qui est là. Ça d'une part, et puis je voulais aussi avoir... trois regards différents sur trois façons d'aborder trois types de spectateurs différents, quoi. Un qui est passionné mais qui va vivre ça d'une façon stressante et qui vit ça comme si c'était la fin du monde, enfin, quelque chose de terrible. Quelqu'un qui connaît rien, qui s'en fout et qui est là, à la limite, qui prend ça en dilettante et que ça pourrait être n'importe quoi d'autre, c'est pareil, mais qui se prend quand même un peu au jeu au fur et à mesure que l'histoire avance. Et le troisième personnage, donc, qui est celui de Louise, puisque les deux autres sont des hommes, qui est entre les deux, j'ai voulu éviter le cliché de les deux mecs qui sont super bons chez foot et la nana qui comprend rien, parce qu'en fait, ça, c'est pas le cas. Elle s'y connaît aussi, mais moins que Fred, mais quand même beaucoup plus que Giovanni, et qui apporte un contrepoint aux deux, mais qui, voilà. C'est encore un troisième regard. Je voulais avoir ce troisième regard, et puis, pour pouvoir tourner d'un chapitre à l'autre, puisqu'en fait c'est un roman à trois voix, quoi, hein, puisque chaque chapitre a un narrateur différent. Je voulais aussi alterner, mais pas un, deux, en fait je voulais avoir une alternance sur trois qui permet de tourner un peu plus. J'avais lu des romans qui étaient construits comme ça, et notamment un, alors beaucoup plus compliqué, je ne peux pas comparer à ça, mais Nancy Houston qui s'appelle Dolce Agonia. Ou alors là, il y a, je ne sais pas combien, mais une quinzaine ou une vingtaine de personnages autour d'un repas, et chacun parle tour à tour dans un mode narratif un peu comme celui-là. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Ouais. Je trouve plus intéressant, en fait, d'avoir un personnage ou plusieurs personnages comme narrateur qu'un narrateur extérieur, bon, ce que j'ai déjà eu fait sur d'autres livres, mais je pense qu'on rentre mieux dans l'histoire comme ça. Plus intéressant. Et ça oblige l'auteur de se mettre vraiment à la place du personnage et pas de le regarder de loin et de se contenter de le décrire. Ce qui pose la difficulté de se mettre à la place d'une narratrice, quoi. Mais bon, ce que j'avais déjà fait pour 09, où là il y avait deux narratrices, il n'y avait pas d'homme, donc je l'avais déjà eu fait, bon, je me disais pourquoi pas, ça me paraissait pas infaisable, quoi, mais ça demande quand même de faire attention dans la façon de voir les choses, de s'exprimer, sortir, se décaler par rapport à ses propres impressions, quoi. Vraiment, ça oblige à avoir un regard différent, et c'est sûr que c'est la partie qui me demande le plus de travail, quoi. La partie où c'est lui qui est narratrice. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je me souviens avoir demandé à Delphine, quand elle a relu, de surtout vérifier si je ne disais pas pas d'incohérence ou de trucs bizarres, quoi, voilà, sur la partie, oui.
Et ce qu'on avait vu ensemble, quand on avait discuté tous les trois, c'était qu'il fallait effectivement, c'était pas tellement dit de doubler plus ou moins le nombre de pages, bon, c'était pas doublé pour doubler, mais c'était effectivement pour que chacun donne de l'épaisseur. Donc, ouais. C'est un petit peu comment tu as réussi à, voilà, à leur donner de la profondeur, de l'épaisseur.
Ben, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est d'abord travailler sur une biographie de chaque personnage, et puis prendre plus de temps pour installer les scènes aussi, c'est-à-dire de ne pas aller trop vite aussi dans le récit, parce qu'il y avait déjà le match qui lui donne le rythme du récit, donc lui, il fait avancer, c'est lui qui fait avancer l'histoire en fait, le moteur narratif, c'est lui, c'est pas tellement l'action des personnages, parce qu'il y a très peu d'action, enfin dehors du match qu'on a mis. Après c'est plus soit de l'introspection, des souvenirs, des flashbacks, des trucs comme ça. Donc du coup, à partir du moment où c'est le match qui fait avancer l'histoire, c'est pas la peine d'aller trop vite quand c'est le personnage qui parle d'eux. Enfin, et j'ai ajouté un petit peu aussi un peu plus d'interaction entre eux, qu'il y avait très peu dans la première version. C'est-à-dire dans la première version, c'était trois monologues, mais à la limite, trop séparés les uns des autres, c'est-à-dire c'était comme si trois personnes regardaient le même match en même temps, mais qu'ils n'étaient pas au même endroit presque. Enfin, c'était vraiment très cloisonné. Bon, ce qui est une erreur, parce que si je les mets au même endroit pour faire la même chose en même temps, il y a forcément des interactions. Quoi. Et le fait que ça soit trois monologues, il fallait pas que ça empêche les interactions entre eux, donc j'ai rajouté aussi ces parties-là, quelques dialogues, alors qui prennent pas énormément de place non plus, mais qui sont quand même beaucoup plus présents que dans la première version, quoi. Et qui permettent un petit peu de faire un contrepoint avec les monologues et de sortir un petit peu de cette partie introspection. Les uns parlent des autres, déjà ils parlent pas que d'eux-mêmes, donc quand c'est des monologues mais pas forcément sur eux, puisque chacun raconte une partie de l'histoire des deux autres, mais ils ont aussi des interactions qui donnent un peu quelque chose de plus vivant, je pense, dans le récit, et voilà, qui est un peu plus mise en scène que ce qui était au début. Et ça prend un petit peu de place, forcément. Mais c'est vrai que dans la première version, je ne m'étais pas attaché à ça, et je pense que ça manquait beaucoup.
Comment tu as abordé ce travail-là, sachant qu'il y a eu 13 ans d'écart entre les deux jets, que toi, tu n'étais plus lui-même, et tes personnages, qu'est-ce que tu as eu envie de leur dire?
Ben d'abord, quand j'ai relu le roman, avant de l'envoyer quand même à Julien, ça serait bien de le relire un peu. Je voulais être sûr quand même que ça tienne la route, parce que si vraiment c'était pas au niveau, ben je l'aurais pas fait, quoi, hein, je l'aurais pas proposé. Donc, en le relisant la première fois, j'ai vu tous les défauts, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui collaient pas du tout, mais je me suis dit, l'histoire quand même fonctionne, même 13 ans après. Comment dire, il y a peut-être pas la même maturité dans les descriptions, enfin c'est peut-être moins, même s'ils ont le même âge que dans la première version, hein, ils ont autour de 30 ans chacun. Je pense que le regard est un peu différent quand même. Hein. Il y a plus de profondeur, moins superficiel. Je pense qu'il méritait d'être plus approfondi et qu'il n'était pas assez la première fois. Et le recalage, alors on ne va pas parler de l'épilogue pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais le recalage final, bon, mais forcément, est intervenu.
Voilà, il permet d'actualiser aussi le récit.
Voilà, l'idée était aussi de recaler la fin du récit à 2016, au moment où je l'ai écrit, et plutôt qu'à 2003.
Est-ce qu'ils étaient trentenaires dès le début de la première mouture ou...
Ça, ça n'a pas changé. Ouais. Mais oui, c'était la même. En fait, je voulais qu'ils soient nés dans les années 60, fin des années 60, on dira. Donc à peu près ma génération à moi, hein, puisque j'ai 50 ans maintenant, donc ça correspond à peu près à ce moment-là. Ils ont 2-3 ans de moins que moi, un petit décalage par rapport à ça. Mais oui, j'ai gardé cette tranche d'âge-là parce que c'est l'âge. Ils sont encore jeunes adultes, ils ont pas d'enfants, ils sont pas encore trop bien. Ils sont pas encore stabilisés dans leur vie, ils se cherchent encore un peu. Voilà. C'était une phase qui me semblait. Qui n'était plus du tout la mienne quand je l'ai écrit maintenant, évidemment, mais qui me semblait intéressante par rapport à ça. Et puis ils ont à peu près quasiment l'âge. Quelque chose auprès des joueurs aussi du match, quoi, des protagonistes.
Ouais,
c'est à quelques années près, mais
après, mais c'est plus vieux en tout cas.
C'est la même, à peu près la même génération. Puis c'est une génération qui est née à peu près en 68. Bon, là, c'était en 98, donc il y avait aussi toute la période des années 70-80 qui était intéressante à explorer. Enfin, pour eux, 80-90, quand ils arrivent à l'âge adulte, qui était intéressante à explorer. Et c'est là où aussi, en le relisant, j'ai vu toute la distance qu'il y avait. Moi, je l'avais écrit donc, en 2003, mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses depuis. Je dirais, entre 98 et aujourd'hui, c'est déjà plus le même monde. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses se sont accélérées, se sont dégradées dans certains cas, évidemment. Voilà, il y a des choses qui étaient, je ne vais pas prendre des exemples d'actualité, mais ce qui se passe actuellement autour de la campagne présidentielle, par exemple, c'est des choses qui seraient passées... Alas, complètement, au milieu des années 90, et qui maintenant ne passe plus. Enfin, on sent que les gens en ont assez de ces façons de faire, et que si les politiques les plus installés sautent les uns derrière les autres, c'est parce qu'il y a des choses qui ne passent plus, alors que dans les années 90, on était encore. C'était Chirac qui était à l'Élysée, et bon, des casseroles au moins plus conséquentes qu'aujourd'hui, et ça. Voilà, quoi. Donc, je pense que, en le relisant, oui, il y avait aussi cette impression qu'on était passé quasiment à une autre époque maintenant, et que c'était intéressant d'y revenir, ne serait-ce que pour mesurer l'écart qui nous sépare de cette époque-là. Et pourtant, c'était il y a 20 ans, quoi. c'était pas si vieux que ça. Mais enfin, en même temps, en 98, 20 ans plus tôt, c'était 78, c'était aussi énorme. En fait. Il y a une accélération dans les périodes qu'on est en train de vivre. Je pense qu'on est vraiment dans une période charnière et que d'une génération à l'autre, il y a un gouffre, quoi, de plus en plus. Et ça, on le mesure. Enfin, en revenant sur ce roman-là, je l'ai vraiment ressenti.
Ce qui est très drôle, c'est que je l'ai relu là, il y a quelques semaines, le 12 juillet. Et j'ai regardé un match de foot. Il y a très souvent des matchs de foot. Et je me disais que maintenant, un match de foot, je ne peux pas le passer sur mon téléphone portable à échanger par SMS avec d'autres. Mm-hmm. 12 juillet, 98.
Non.
Aucun téléphone, on est complètement coupé. Enfin, coupé. On interagit avec les gens qui sont avec nous.
Oui, voilà.
Mais il n'y a pas du tout de communication à l'extérieur jusqu'au lendemain ou sur le lendemain ou aller revoir les autres gens.
Oui, c'est ça.
Et on finit, bon, on dévoile la fin, et on finit sur un épilogue en 2016 où le téléphone est au centre de quasiment des dernières scènes. Enfin, dernières scènes. Donc, ouais, effectivement. L'évolution, elle est dans les mentalités, elle est technologique, et c'est qu'on n'a pas du tout le même regard et le même rapport à là où, en l'occurrence, ce sport.
Pour revenir à la notion de temps tout à l'heure, je pense que le sentiment d'accélération qu'on a, il vient aussi du fait qu'on est tous interconnectés avec tout le monde, qu'on est assailli par un flot d'informations permanentes, qu'on interagit beaucoup et que ça. On pourrait penser que c'est bien parce que du coup, oui, on peut contacter tout le monde n'importe où tout le temps et on peut se tenir au courant de tout ce qui se passe où qu'on soit. Mais je pense que ça a aussi des conséquences, quoi. C'est qu'on est peut-être moins présent à ce qui se passe, on a moins le temps de réfléchir à ce qu'on fait, à prendre des décisions. Chacun vit d'une façon différente, mais moi je sais que ces derniers temps, encore plus depuis un an avec ces histoires, aussi bien pour le roman que pour le dico, qui prennent énormément de temps, quoi. Le dico, là, ça va être travaillé 20-30 heures par semaine, et un effet de saturation, l'impression de ne plus avoir le temps de rien, quoi. De courir sans arrêt, après tout et n'importe quoi, et de pas... Voilà. Seul moyen que j'ai pour me poser, ben, c'est un peu... C'est un peu le cinquième personnage du roman, je dirais, c'est le lieu où ça se passe. Que quelques-uns connaissent ici. Et où là, il y a vraiment moyen de se couper de l'extérieur et d'être vraiment isolé, tranquille. Moins maintenant, puisqu'avec avec la 4G, on peut quand même avoir un téléphone, se connecter à Internet, quand même, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Bon. Enfin, après, on n'est pas obligé de le faire non plus. Mais au moins, là, il y a possibilité de se couper, de prendre du temps, de réfléchir. Et, ouais, quoi. Mais c'est de plus en plus difficile. Quand même.
Accès à la 4G.
Ouais.
Et là, c'est très volontiers.
Et merde.
Voilà. Donc, oui, c'est ce qui est intéressant, c'est ça. Ben, pour revenir à ta question, Jérémy, je pense que c'était cette perception du temps qui est différente, voilà, qui a changé. Quand j'ai écrit ce livre-là, donc en 2003, j'avais 37 ans, et je m'étais dit l'objectif, c'est d'être édité avant 40 ans. Bon. J'ai signé le contrat.
Le jour de.
J'ai signé le contrat avec Salto l'an dernier, le 15 juin, et c'était le jour de mes 50 ans. J'avais fait 10 ans de retard. L'essentiel, c'était quand même d'être arrivé, mais je dirais arriver à cet âge-là, bon, qui peut être différent pour chacun, hein, je ne veux pas non plus généraliser, mais l'impression qu'il ne reste pas tant de temps que ça, et qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut plus faire, des choses qu'on aura une opportunité et pas deux, et. Faut arriver à la saisir et pas... Donc c'est ça aussi qui participe sans doute à cette impression d'accélération que quelqu'un, que les trentenaires qui sont là ont peut-être pas encore, tant mieux pour eux. Profitez-en, ça va pas durer.
Ça commence,
Ça commence. Oui, parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui est en 84, donc qui est particulièrement jeune.
Scandale.
L'image d'un éditeur qu'on a, quelqu'un de vieux, un mec qui passe totalement les livres et tout, qui est chenu et tout.
C'est fini tout ça.
C'est fini tout ça, voilà.
Non, je suis pas content dans les livres quand même.
Oui, mais...
Ça, c'est pas fini. Et justement, donc t'as choisi de travailler, donc en 2003, t'as écrit sur 98. Mais pourquoi pas sur CV 82, bon, même si on a reparlé depuis, ou sur d'autres matchs mythiques de l'équipe de France pour essayer dans le foot?
Parce que je pense que c'était un match qui a dépassé le cadre du foot et qui était plus large que ça. Je pense qu'il y a eu d'autres matchs importants, enfin bon, évidemment, pour le 82, mais c'est pas pareil quand même. Là, c'était autre chose. Il y a eu tout le mouvement populaire qui a suivi le soir du match et le lendemain. Certains disaient qu'ils n'avaient plus vu ça depuis la Libération, quand même, depuis 1944. Et après, toute la récupération qu'il y a pu y avoir sur la France Black Number, dont on a vu que ça n'a pas duré longtemps, puisque trois ans après, c'était déjà fichu. Mais qui a été quand même un moment important, fusionnel, fédérateur. Voilà. Sinon, oui, le match en lui-même, bon, hormis que c'était quand même une finale de la Coupe du Monde et que la France a gagné, mais sinon, ce n'est pas un bon match du tout. Franchement, quelqu'un qui est neutre et qui regarde ça, il doit plutôt s'ennuyer qu'autre chose parce que c'est pas terrible quand même, objectivement. Mais c'était pas ça qui était important. D'ailleurs, pour ça, pour moi, c'est pas un bouquin sur le foot, quoi. C'est autre chose. Oui, et puis parce que ça correspond aussi à ma génération. En 82 aussi, mais j'avais 16 ans, c'était pas la même chose. Et j'étais même pas né, donc je peux même pas parler.
Je peux pas parler de 44, par exemple.
Et voilà, donc c'était pas par rapport au match proprement dit, c'était plus par rapport à l'impact qu'il a eu.
Qu'il a eu, hein.
C'est autre chose. Hein. C'est différencie quand même l'événement en lui-même et l'écho et la résonance qu'il a pu provoquer, sans commune mesure avec le match. Quoi. Mm-hmm. Si, et puis il y avait quand même aussi une dimension alors qui a été récupérée politiquement avec la France Black Number après, mais qui avait quand même un intérêt qui était moins vrai dans les époques précédentes. Dans cette équipe-là, il y avait un Kanak, il y avait un Ghanéen, il y avait des Antillais, il y avait un Arménien, il y avait... Et ce qui était assez surprenant, c'est qu'en 1998, quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y a eu des... mouvement populaire, bon, évidemment en France, ce qui était normal, c'est ce qui était attendu, mais un peu partout dans le monde, c'est-à-dire à différents endroits d'origine des joueurs et à des endroits où de toute façon jamais une équipe nationale sera championne du monde. Enfin, l'Arménie sera jamais championne du monde, le Ghana à la limite peut-être, mais enfin, qui a un peu de sens. Il y a eu beaucoup de pays comme ça qui se sont réappropriés aussi ce moment-là et qui a mis en évidence le fait que la France était multiculturelle. Et d'ailleurs, ça a eu à ce point de l'importance que des pays qui étaient très fermés au multiculturalisme, dans le sport mais pas que, comme l'Allemagne, où les joueurs allemands, jusque dans les années 90, c'était le droit du sang d'abord qui prévalait en Allemagne. Et donc les joueurs allemands, c'était des Allemands de souche, on dira. Maintenant, l'équipe d'Allemagne, il y a des joueurs, Boateng, par exemple, beaucoup d'origine turque. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont été champions du monde en 2014, et aussi en partie grâce à cette diversification qu'ils ont eue dans leur équipe. Et ça a fait un petit peu, ça a eu un peu valeur d'exemple, je pense. L'Italie était complètement fermée aux étrangers jusque dans les années 90, l'équipe nationale, alors que maintenant il y a El Sharawi qui est égyptien, Balotelli qui est, il est né en Italie,
mais il a une histoire particulière.
Il est d'origine africaine. Enfin bon, ça c'est vraiment. Il y a encore l'Espagne qui est un peu fermée, on dira. Mais donc ça a été, c'est pas le match en lui-même, c'est l'impact qu'il a eu et on peut dire son universalisme, quoi, puisqu'il a touché quand même beaucoup de nations par les origines des joueurs, quoi, ce qui était quand même relativement nouveau.
L'épilogue de l'histoire du personnage, il a été travaillé, fait à la réécriture ou dès le début ?
Il y était dès le début, non. Il était dès le début et il n'a pas pris beaucoup plus de place après, non. Je pense. Hein, puisqu'il apparaît que dans l'épilogue, enfin, on en parle dans le livre, mais il n'intervient pas directement.
Parce qu'il y a le clin d'œil aux événements récents.
Oui, bon, pas trop rentrer en détail pour ceux qui n'ont pas lu. En fait. C'est tout le monde n'a pas lu.
Mais je parle sportif.
Oui.
Mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est que 98, c'était la dernière... grande compétition de football qui est organisée en France, et on a eu 2016, donc l'Euro 2016, donc la boucle était quelque sorte bouclée aussi en termes d'événements sportifs, footballistiques organisés en France.
Voilà, et l'épilogue de la première version avait lieu en 2003, mais c'était la date d'écriture, Et donc, comme il a été réécrit en 2016, c'était pas illogique aussi de le recaler. Et à la limite, l'écart de temps entre la totalité du récit et l'épilogue avait pas tant d'importance que ça. Il fallait qu'il y ait un écart. D'ailleurs, on s'était posé la question avec Delphine, avec Julien, à savoir si on conservait cet épilogue-là, puisque moi, je pouvais avoir un doute, parce que si on enlève l'épilogue, ben, ça fait une unité de temps, de lieu, enfin, un truc un peu plus procédé un peu théâtral, quoi. Hein, on peut dire, plus circonscrit dans le temps. Est-ce qu'il fallait le garder ou pas? Bon, on a convenu que oui, hein, mais en le retravaillant, en le recalant dans le temps, je pense que ça fonctionne comme ça fonctionnait. Ouais, en 2003, c'était pas... Et puis, oui, je me souviens que toi, tu disais, par exemple, que c'était important d'avoir un contrepoint, que l'épilogue servait de contrepoint à tout le reste de l'histoire et donnait une espèce d'issue qui aurait manqué s'il n'était pas... Quoi, ben. C'est vrai que ça aurait fini peut-être un peu abruptement et qu'il aurait manqué quelque chose. Enfin, voilà, c'était pas...
Parce qu'en fait,
là,
ce personnage, quand même, on veut savoir ce qu'il vit après.
Voilà. Même si c'est qu'un épilogue et que c'est quand même assez court, mais ça fait quand même... Puis un regard inversé, quoi. C'est-à-dire ils sont tous les trois au même endroit et elle, il la voit dans le public pendant le match, mais elle n'est pas là. Et l'épilogue est raconté de son point de vue à elle. Et
que tu veux nous lire un petit extrait?
En 2003, j'avais pas besoin de lunettes. Hein.
C'est ce que je me disais.
C'est malheureux. Hein. Alors, je vais en prendre un au début, comme ça avance pas trop dans l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu. Donc chaque chapitre commence par une heure. Hein, donc voilà, c'est 20h55. Donc, sachant que le match a commencé à 21h, donc on est à 5 minutes du début. Et donc, c'est Louise qui parle. Bon, allez, qu'on s'y mette et qu'on n'en parle plus. C'est usant cette attente, un peu comme quand la pression de l'air chute d'un coup avant un orage. Tu n'en dis que d'une chose, c'est que ça finisse par éclater pour pouvoir respirer enfin. Là, c'est pareil, la tension est palpable. Tu vois les joueurs, on dirait qu'ils sont en apnée. Ils n'attendent plus qu'une chose, c'est que l'arbitre siffle le coup d'envoi et qu'ils puissent enfin courir, bouger, jouer et ne plus subir. Ici, c'est un peu pareil. Heureusement qu'on n'a pas trois ou quatre comme Fred, il y aurait de quoi devenir dingue sinon. Giovanni apporte un peu d'insouciance et de légèreté. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il reste et que j'ai fait ce qu'il fallait. Ce garçon-là, il t'apaise. Il a le don de tout rendre plus simple, même quand il ne va pas bien. C'est une forme d'élégance, je trouve, même si ça ne l'aide pas beaucoup. Je ne me suis jamais très bien entendu avec Erika. Je ne sais pas pourquoi je ne la sentais pas bien dans cette relation avec Giovanni. Quelque chose n'allait pas. Peut-être la différence d'âge. D'autant qu'elle était beaucoup plus mature que lui, et je crois qu'elle s'en servait. Ça n'a pas empêché Giovanni de continuer à nous voir, mais souvent, il venait seul. Elle avait mieux à faire ailleurs. Pourquoi pas? Je ne crois pas que les couples fusionnels soient la panacée, loin de là, mais ils me donnaient l'impression, tous les deux, de vivre chacun leur vie côte à côte, sans partager grand-chose, finalement. À part des moments au lit, bien sûr, mais ça ne fait pas une relation. Et je sais bien que Giovanni, sous ses airs détachés de tout, a vraiment besoin de sentir qu'on tient à lui. Il a besoin de l'affection des autres, et ça, Erika ne lui en donnait pas beaucoup. Ah tiens, les Brésiliens ont fini de chanter, ça va être la Marseillaise. Roulement de tambour, gros plan sur Barthez. Lui, il se marre, c'est toujours pareil au moment des hymnes. Ça doit beaucoup l'amuser, ou alors c'est une façon pour lui de se décontracter un peu. Du coup, il fait rire Lizarazu à côté de lui. Par contre, Thuram est déjà à fond. Quel match il a fait contre la Croatie mercredi. Lui qui ne tire jamais, le voilà qui marque deux buts et qui qualifie la France. C'était beau quand il a été porté en triomphe après le match, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Par contre, il y en a un qui ne bronche pas là au milieu. C'est qui déjà, les 19 Français qui préfèrent garder le silence? Carambeu, répond Fred. Ah, et il est originaire d'où, lui? Nouvelle-Calédonie, c'est un canac. On peut comprendre que la Marseillaise, ça soit pas trop leur truc là-bas, vu comme ils se sont fait rentrer dedans en 88, tu te souviens? Entre les deux tours de la présidentielle, la grotte d'Ouvéa, les otages et la fusillade, pas beau à voir. Tiens, un plan étonnant. Les Brésiliens se tenaient par la main en sortant des vestiaires, et ils avaient les mains croisées dans le dos pendant les hymnes. Les bleus, c'est le contraire. C'est maintenant qu'ils se tiennent par la taille et font bloc. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est intéressant. Regarde-moi Chirac dans la tribune, remarque Fred. Et Jospin derrière. Et Platini qui s'est mis en mode 42. Tu me diras, quand il jouait, il ne chantait pas la Marseillaise non plus. Ce n'est pas arrivé à la quarantaine qu'il va s'y mettre. Ces histoires d'hymnes, ça ne m'a jamais vraiment passionné. Mon arrière-grand-mère, Ofsana, qui m'a élevé, était arménienne et forcément... Ces féroces soldats qui viennent jusqu'au bout dans nos bras pour égorger nos fils et nos compagnes, ça lui évoquait des choses très concrètes, et pas agréables du tout. mais elle a toujours eu beaucoup de respect pour le pays qui l'a accueillie quand elle était une jeune femme ensuite, et elle m'a mené voir tous les 14 juillet le feu d'artifice en Inde. Quand j'étais petite, j'en avais une peur bleue, ou plus exactement, les détonations me terrifiaient. Mais les gerbes multicolores m'enchantaient. Il me fallait l'image sans le son, en fait. Voilà. Là, c'est un bon exemple de la façon dont l'actualité rattrape la fiction, puisque j'ai écrit ça pendant l'été. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai réécrit ça, mais c'était sûrement quelques jours avant l'attentat à Nice, quoi, qui s'est passé, le 14 juillet, mais bon, c'était évidemment pas fait exprès, mais voilà, des fois des raccourcis comme ça. Et bon, là, on voit sur cet extrait-là ben, la notion de temps hein, qui se contracte, qui se dilate, et la perception différente que les gens ont, et la place que peut avoir aussi l'histoire et l'actualité dans ce que les gens, que les personnages les racontent. Après le reste, je vous laisse le découvrir.
Oui, on va pas tout lire.
Voilà. Bah maintenant.
On va pas tout lire. On va peut-être arrêter là pour que tu aies un peu de temps pour dédicacer des livres, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été achetés. Je voulais voir.
Moi, je voulais juste te dire, au contraire, ce que j'avais préféré dans ton livre, c'était la dédicace.
Ah oui, c'est que toi qui l'as, celle-là.
Ah, là, oui. Elle m'est propre. Excusez-moi, je suis sur le talon.